Bonjour, je m'appelle Guillemette, je suis journaliste à Ombres et Lumières, média spécialisé dans le handicap. Bienvenue dans le podcast La Lumière d'une rencontre, réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, je vous propose de rencontrer quelqu'un de concerné par le handicap ou la maladie, ou qui y est sensible. Le thème de l'épisode est toujours en lien avec le numéro d'Ombres et Lumières en cours. Ce témoin nous partagera son histoire, parfois traversée par l'épreuve, et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Maria Melissoni, bonjour. Merci de me recevoir chez vous à Lyon, on est dans votre salon. Voilà, pour notre podcast La Lumière d'une rencontre. Vous travaillez dans une direction d'une grande entreprise donc pour les ressources humaines depuis plusieurs années. Les lecteurs d'Ombre et Lumière vous connaissent bien puisque vous tenez depuis une dizaine d'années une chronique appelée Une vie de maman qui est publiée sur notre site internet. Si nous vous tendons le micro aujourd'hui, c'est que vous venez de publier ce mois de septembre un livre témoignage qui est intitulé On n'est pas à l'abri d'un bonheur, publié chez Salvator. Et vous y prenez donc la plume en tant que mère d'un grand jeune homme, Paul, qui a 22 ans, qui a été diagnostiqué autiste à l'âge de 20 mois. Vous racontez son histoire, l'histoire de votre famille nombreuse, puisque vous avez 4 enfants en tout, chamboulée au quotidien par le handicap mental, car l'arrivée du handicap est un combat, et d'autant plus que vous le menez seul depuis la mort de votre mari, qui a été emporté par une maladie à l'âge de 35 ans. Et Paul avait alors 8 ans et votre dernier enfant était âgé de 14 mois. Le titre, on n'est pas à l'abri d'un bonheur. Et pourquoi avoir choisi ce titre?
Bonjour Guillemette. C'est un très beau titre. On a mis beaucoup de temps à trouver. On a eu beaucoup de propositions. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est une amie de l'OCH qui l'a trouvé. Et je trouve que ce titre est très beau parce qu'il il laisse entrevoir toute la difficulté que peut représenter la vie avec une personne autiste comme Paul. Et en même temps, il n'enferme pas dans ses difficultés. Il laisse une petite porte ouverte et une petite porte de la joie, une petite porte du bonheur. Et c'est exactement, je pense, un peu le sens de ce que je raconte un petit peu dans le livre. Mmh. Voilà. Alors ce livre, c'est peut-être que je peux en dire un mot.
Oui,
voilà.
Oui.
Ce livre, c'est un recueil en fait de l'ensemble des chroniques que j'ai effectivement écrites pour Ombre et Lumière. Je raconte pas la vie de façon chronologique, la vie de Paul de façon chronologique, mais je raconte un petit peu notre quotidien à travers un certain nombre d'anecdotes et de choses qui peuvent nous arriver et qui soulèvent pour moi beaucoup de questions.
Et peut-être effectivement, pour revenir un peu chronologiquement au fait, peut-être revenons à l'année 2000, donc l'année de naissance de Paul. Donc vous avez alors 27 ans, si je ne me trompe
oui.
pas. Donc lorsque Paul naît, c'est votre premier enfant. Donc on imagine d'abord la joie qui déborde de l'arrivée de ce premier enfant. Comment peut-être un peu d'abord se sont passés les débuts? Parce que comme je le disais, l'annonce du diagnostic est faite lorsqu'il a 20 mois, donc assez jeune, assez tôt. Comment se passe le début, l'annonce du diagnostic?
Alors effectivement, Paul est diagnostiqué autiste à 20 mois, c'est très tôt par rapport à beaucoup d'autres jeunes. Sans doute parce que les symptômes de son handicap sont très prégnants et il a effectivement un autisme très sévère puisque aujourd'hui encore, par exemple, il ne parle pas. Voilà, il n'a aucun accès au langage et il n'a pas d'autonomie personnel. Donc quand il était bébé, c'était déjà compliqué. Nous, effectivement, c'est notre premier enfant. On se disait au début qu'on s'y prenait mal. En fait, on disait, oh là là, on ne sait pas faire en fait avec cet enfant. C'est un enfant qui ne faisait pas ses nuits, qui pouvait pleurer très longtemps ou au contraire être extrêmement amorphe. Donc c'était très déconcertant pour nous, mais voilà, on se disait qu'on s'y prenait mal, puis on se disait aussi que ça allait venir, voilà, qu'il fallait un peu de temps, que chacun son rythme, que les choses allaient se débloquer, que ça allait venir. Et puis effectivement, vers l'âge de 18 mois, là, la comparaison avec les autres enfants du même âge, voilà, et montrer un écart tel que c'était plus possible de se voiler la face sur les difficultés de Paul. Et il a été diagnostiqué donc autiste de Kanner, donc autiste infantile précoce, voilà, avant ses 2 ans.
Et c'est un professionnel aussi qui a... Enfin, est-ce que vous avez été aussi alerté par des professionnels au de Paul?
Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, le pédiatre qu'il suivait n'avait rien vu. Enfin, il n'avait rien vu jusqu'à ce que nous, on commence à lui montrer... à 18 mois, lui montrer que vraiment, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis, tout d'un coup, c'est devenu la panique. Oui, effectivement, ça n'allait pas du tout. Et puis, il nous a orientés sur des consultations avec... un psychiatre, voilà, nous, moi, j'ai jamais vu de psychiatre de ma vie, on était assez déconcertés aussi par ce type de consultation, et puis, voilà, il a eu comme ça la possibilité de rentrer au CEDA à Lyon. Alors, le CEDA, c'est le centre de diagnostic qu'il a diagnostiqué. Ensuite, là, ça se complique parce que on donne un diagnostic, normalement, on donne un diagnostic et une prise en charge, et la prise en charge qui était associée, était aussi déconcertante puisque c'était une prise en charge assez psychanalytique où moi je devais m'investir beaucoup aussi en tant que mère et j'ai découvert un monde, j'ai découvert d'autres familles aussi à cette occasion. Mais on est assez seul en fait, hein, parce que ensuite il n'y a pas de scolarisation possible. Enfin, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de scolarisation possible. Il y avait une prise en charge qui était très décousue. Et puis moi, j'ai eu mes autres enfants. Donc, c'était très compliqué, oui.
Donc, Paul a été mis dans un centre?
Non. Pas du tout. Paul, il a eu d'abord des prises en charge très décousues avec des consultations. Voilà, je faisais des allers-retours au fin fond de Lyon avec la poussette. Enfin, j'ai souvenir... quand même assez épique, pour une demi-heure de consultation, c'était compliqué. Et puis ensuite, on a, quand est venu l'âge de l'école, Paul n'était pas scolarisé. Et puis est arrivée l'année 2005, où 2005 c'est la loi sur la scolarisation, où là, avec d'autres parents, on a organisé une classe, en fait, où on aidait la maîtresse avec des stagiaires psychologues, pour pouvoir prendre en charge un petit peu nos enfants. Donc on a bricolé, j'allais dire, pendant longtemps, jusqu'à ce que Paul rentre dans un IME à l'âge de 12 ans, parce que moi, après, je me suis retrouvée toute seule et il a fallu que je reprenne mon travail. Et ensuite, Paul est interne, a pu rentrer dans un internat à l'âge de 17 ans. D'accord. Voilà.
Mmh. Ok, donc on imagine comme un parcours, bricolage.
Un peu bricolé.
Et est-ce que vous connaissiez le monde du handicap par la famille, des amis, avant Paul
Alors, ça, c'est vrai que c'est assez incroyable à dire, mais moi, le monde du handicap, c'était quelque chose... Mais, alors, je ne sais pas s'il y a un monde du handicap, déjà, mais j'avais très peu côtoyé de personnes handicapées dans ma vie. Je dis souvent que je n'ai jamais croisé un fauteuil roulant dans ma scolarité, ce qui est quand même fou, parce que... Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais où étaient ces personnes? Et mon mari non plus, d'ailleurs, n'avait jamais côtoyé de près des personnes handicapées. J'avais vaguement... Enfin oui, j'ai une amie qui a un frère handicapé, voilà, mais ça reste très lointain, j'avais pas de lien. À tel point que j'avais des amis, par exemple, qui étaient investis dans des associations pour personnes handicapées, et notamment l'association, la très belle association à bras ouverts, et ils parlaient d'ABO, je ne savais même pas ce que c'était, je me demandais de quoi ils parlaient. c'était un autre monde, un autre, enfin, en tout cas, voilà, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je n'avais pas eu d'engagement, par exemple, d'engagement étudiant auprès de personnes plus fragiles. Et donc, quand on nous parle d'autisme, quand le médecin commence à nous parler d'autisme, je ne voyais même pas de quoi il me parlait. Je voyais bien que mon petit garçon avait des difficultés. J'ai compris que c'était grave, mais j'avais aucune projection. Et c'est dans les yeux de mes amis qui, eux, connaissaient des personnes autistes que j'ai lu, en fait, toute l'ampleur, en fait, du handicap de Paul. Et c'est là où j'ai compris vraiment qu'on allait on s'engageait sur une route qui allait être difficile pour lui et pour nous.
Et justement, comme vous ne connaissiez pas du tout, ça n'évoquait pas forcément grand-chose pour vous au tout début, qu'est-ce qui vous a un peu aidé à avancer ? Est-ce que des groupes de parents, des groupes de partage, des professionnels un peu qui ont été mis sur votre route, ou que vous êtes allé chercher sur votre route aussi, qui vous ont particulièrement aidé au tout début peut-être ?
Alors c'est vrai que comme nous, on n'avait pas de représentation sur l'autisme, on s'est dit ça va être difficile, mais en même temps on verra bien comment ça se passe avec Paul. Et les premiers mois du diagnostic, c'est vrai qu'ont été quand même terribles. Je dis on verra bien, mais on avait quand même les difficultés de Paul au quotidien, qui étaient quand même très lourdes. Et on a eu la chance d'être invité à participer à un groupe, à venir dans un après-midi pour la communauté Foi et Lumière. Une communauté Foi et Lumière, ce sont des jeunes parents qui nous ont contactés et qui nous ont proposé de venir participer. On ne connaissait pas du tout. Au début, on n'a pas forcément très envie d'aller rencontrer d'autres parents qui ont des enfants handicapés. On dit c'est bon.
Le principe, en effet, Foi et Lumière, peut-être.
On peut le rappeler, oui. Foi et Lumière sont des communautés de personnes handicapées mentales avec leurs familles et leurs amis, qui se réunissent une fois par mois avec un petit programme pour la journée. Et l'idée, c'est de créer des liens et de créer des amitiés en fait autour des personnes avec un handicap. Donc effectivement, c'est un groupe de familles avec des enfants handicapés. Bon, il y a d'autres familles qui ne sont pas touchées par le handicap, mais c'est quand même l'idée. Et donc au départ, on était un peu, on n'était pas forcément très chaud à l'idée de encore nous mettre un peu la tête sous l'eau avec le handicap. On avait plutôt besoin de voir autre chose, mais on ne connaissait pas et on y a été. Et je dois dire que ça a été quand même une grande ressource, le fait de nous décentrer de notre propre problème, c'est-à-dire qu'on tournait beaucoup autour des difficultés de Paul, et de faire la connaissance d'autres familles, d'être porté aussi leur joie, mais aussi de compatir à leur peine quand c'était difficile. Ça a permis de nous décentrer, et d'avancer et de comprendre que on n'était pas les seuls, et que le handicap pouvait faire partie de la vie et que la vie continuait.
Et vous faites encore partie d'une communauté Foi et Lumière.
Enfin, je suis toujours partie de la même communauté Foi et Lumière, où les jeunes enfants qui étaient à l'époque ont bien grandi. Et j'ai toujours beaucoup de joie à retrouver tous les amis de Foi et Lumière. Et c'est très beau parce qu'on crée des liens très forts avec les familles, avec les personnes qui sont porteurs de handicap aussi, porteuses de handicap. Et mes enfants aussi, on crée des liens très forts.
Oui, on reviendra aussi... sur le sujet de vos enfants, vos autres enfants, après. Votre livre porte beaucoup voilà, sur l'adolescence de Paul. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile au quotidien dans cette tranche d'âge complexe pour beaucoup d'enfants, mais peut-être plus particulièrement pour Paul?
Alors c'est vrai que j'ai centré, on a fait le choix de centrer le livre sur la période de l'adolescence jusqu'à l'arrivée début de l'âge adulte de Paul. Il y a peu de choses écrites sur cette période-là et puis sur les adultes autistes. Hein, finalement, il y a beaucoup de choses sur les enfants. Il y a peu de choses écrites sur cette période. Et c'est une période qui est très particulière. Pour moi, qui a été difficile parce que on passe l'adolescence et là, les choses deviennent un peu définitives, elles s'ancrent. C'est-à-dire que tant que Paul est enfant, on est dans une dynamique de progrès. Alors, on a beaucoup travaillé avec lui. On s'est beaucoup formé à des tas de méthodes, des tas d'outils en fait pour l'aider, notamment des outils sur la communication. On a mis en place des exercices avec lui. Alors comme on pouvait, et puis on a travaillé tout ça pour l'aider à acquérir un minimum d'autonomie et de communication. Et puis, avec plus ou moins de succès, je veux dire, beaucoup d'énergie, mais plus ou moins de succès. Et puis arrive l'âge adulte et puis les choses se figent un peu et moi je me dis que tout cela est finalement définitif. Alors, ça fait longtemps que je sais qu'il n'y a pas de guérison, c'est un handicap, il n'y a pas de guérison possible. Mais ça, je le sais avec ma tête et avec mon cœur. C'est complètement irrationnel, mais on ne peut pas s'empêcher d'imaginer, pas une forme de guérison, mais une forme d'évolution très positive de la situation. Je connais une amie qui a un enfant trisomique et qui me dit qu'elle peut pas renoncer à l'idée qu'un jour il ne sera plus trisomique. Enfin, c'est des choses complètement irrationnelles, mais qu'on peut porter au fond de notre cœur. Et effectivement, l'âge adulte, pour moi en tout cas, tourne une page de cette dynamique. Et puis, le regard des autres change aussi à l'âge adulte, et ça c'est difficile. On passe d'un petit garçon, un petit blondinet assez craquant, avec ses grands yeux bleus, à un grand gaillard, qui est un beau jeune homme, mais qui est quand même un adulte. Et voilà, donc le regard des autres change, le comportement de Paul qui peut rester tout à fait enfantin et complètement déconcertant pour les gens, était assez accepté quand il était petit. Il devient adulte, Paul il s'assoit par terre, il gratte la terre, il joue avec les cailloux. Il crie beaucoup. En public, ça devient... Enfin, c'est pas la même chose, voilà, c'est plus compliqué.
Oui, le regard des autres peut être beaucoup plus...
Et plus compliqué, oui.
Plombant, oui. Et aussi, peut-être, dans votre regard, je crois que vous l'évoquez dans votre livre, mais de le voir aussi, de vous-même, de ne pas le voir en tant que seulement un enfant, mais voilà, de vraiment le considérer comme un jeune homme, le regard doit pas être non plus évident à poser.
C'est vrai qu'il faut du temps, pour accepter qu'il devienne un adulte et accepter qu'il devienne un adulte non autonome. Et c'est vrai que la non-autonomie, c'est le propre des petits et des enfants. Et donc, c'est assez ambivalent le regard qu'on peut avoir, mais il faut se forcer. Moi, j'ai effectivement, dans mon livre, je raconte un peu ça, comment je mets en place des choses pour... maintenant, c'est terminé. Quand on s'adresse à lui, on ne s'adresse pas à lui comme un petit. Il est à table, on ne lui met pas un bavoir comme les petits. Voilà, on fait attention à le faire passer, nous aussi, par notre comportement, nous aussi, à l'aider à passer dans le monde des adultes.
Et vous disiez que donc, c'est à l'âge de 17 ans qu'il a été
interne.
Mmh. Voilà. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de place avant, ou ça a été aussi un choix de votre part, ou un peu les deux?
Alors, c'est effectivement... l'entrée de Paul en IME à 12 ans a été extrêmement compliquée. Il n'y avait pas de place et c'est l'ARS qui l'a imposé en fait dans une structure parce que moi, j'étais toute seule et je devais reprendre mon travail.
L'ARS, donc l'agence...
L'agence régionale de santé, voilà. Et donc, effectivement, il n'y avait pas de place et c'était compliqué. Moi, je n'étais pas forcément demandeuse d'un internat tout de suite. Le passage à l'internat, c'est aussi quelque chose d'assez douloureux, d'assez compliqué avec un enfant qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. On ne peut pas lui téléphoner, il ne peut pas raconter. On est obligé d'avoir... il y a une forme de confiance incroyable dans l'équipe en fait, qui va prendre en charge. Hein. Donc, c'est un pas qui n'est pas facile à faire. Donc, il se fait progressivement. Et voilà, donc après, il est interne à 17 ans. C'est à la fois un soulagement aussi pour moi, parce que c'est très très lourd à la maison, et à la fois voilà, un déchirement de le voir partir la semaine. Et puis moi, j'ai toujours eu à cœur de, voilà, que Paul quand même soit assez présent à la maison, pour qu'il y ait des liens qui se créent, des liens forts qui se créent avec ses frères et sœurs.
Justement, oui. Peut-être en venir à, voilà. À là. Parce qu'on imagine bien que voilà, donc c'est Paul est l'aîné, donc ça l'a aussi, peut-être d'autant plus, je ne sais pas, en fonction de la place de l'enfant qui a un handicap dans une famille, mais donc c'est le grand frère de trois autres frères et sœurs. Peut-être rappeler les prénoms, donc il y a Philippe,
Juliette
d'abord, okay.
Philippine et Charles.
Et Charles, d'accord. Donc il y a... Quel écart, pardon, d'âge ?
Alors, Juliette a 2 ans de moins que Paul. D'accord. Ensuite, Philippine a 3 ans de moins que Juliette. Et Charles, 2 ans de moins que Philippine.
D'accord.
Voilà, donc il y a 7 ans entre Paul et Charles.
Entre Paul et Charles. Ok, très bien. Et donc voilà, on sait que ça peut déséquilibrer voilà, une vie de famille, etc. Forcément, Paul demande beaucoup de soins, d'attention de votre part. Est-ce qu'ils sont proches de leur frère Paul ? Est-ce qu'ils l'ont toujours été ? Est-ce que ça a un peu changé ? Peut-être comment leurs relations ont évolué avec leur grand frère ?
C'est vrai que la question de la fratrie, c'est une belle, c'est une belle question, parce que c'est pareil, on en parle peu et... Pourtant, beaucoup de gens sont touchés quand même. Enfin, on peut avoir un frère ou une sœur handicapée et on les oublie souvent. C'est sûr que les relations avec Paul... Alors, Paul, c'est l'aîné. Donc, eux, ils ont toujours connu Paul. Ils ont toujours connu Paul à la maison, ce qui est très différent d'un handicap qui survient dans une famille ou qui survient par accident ou par une naissance. Mais c'est un peu différent quand c'est l'aîné, eux, ils arrivent, Paul a toujours été là. Leur relation avec Paul, effectivement, évolue très fortement avec l'âge. Paul, c'est quand il est encore enfant ou adolescent, il ne sait pas jouer. Donc il n'y a pas de relation de jeu. Et les enfants, eux, ils communiquent, enfin, c'est vraiment leur première façon d'être avec les autres, c'est par le jeu. Donc les enfants, ils se lassent très vite, donc ils vont essayer de jouer avec Paul, essayer de rentrer en contact, et puis il n'y a pas de retour, il n'y a pas de possibilité, donc ils vont se lasser très vite. Donc à la fois, il n'y a pas de communication, si, il y a beaucoup de communication, mais il n'y a pas de il n'y a pas de retour de la part de Paul, de réciprocité dans le jeu. Et à la fois, Paul prend beaucoup, beaucoup de place dans la famille. Donc, c'est assez ambivalent. Alors, au cours du temps, ils vont finir par faire comme moi, c'est-à-dire qu'ils vont le materner. Ils vont avoir une relation comme ça de maternage. Donc, très tôt, ils vont l'aider pour le repas, l'aider pour l'habiller. Mais c'est pas parce que j'ai besoin d'aide. C'est pas parce que je leur demande, parce que j'ai besoin d'aide, c'est parce que c'est une manière d'être avec Paul, d'être présent avec lui et d'être en contact avec lui. Et puis après l'adolescence, alors c'est pour eux, enfin l'adolescence des autres enfants, c'est effectivement une période plus compliquée pour eux, où ils peuvent ils vont avoir beaucoup de questions, ils vont par exemple, moi je remarque, ils vont avoir du mal à inviter des amis à la maison, sauf des amis évidemment qui connaissent la situation, qui connaissent Paul, voilà, ils vont faire attention à qui ils invitent à la maison. Ils vont parfois ne pas parler de Paul, ne pas évoquer Paul autour d'eux. Et puis cette période va, voilà, en grandissant, maintenant j'ai quand même les filles qui sont déjà plus grandes maintenant, je constate qu'elles arrivent à en parler, qu'elles arrivent à voilà, à mettre des mots en fait hein, sur ce qui se passe sur leur grand frère. Et elles développent aussi une relation qui est très belle avec, avec leur frère. Ce que je peux dire aussi sur la fratrie, c'est que effectivement, moi, je constate qu'il y a une maturité très jeune, enfin, en tout cas, une responsabilité très jeune. C'est-à-dire que quand ils sont avec leur frère, ils ont cette responsabilité. S'ils sont seuls avec lui, de faire attention à ce qu'ils ne se mettent pas en danger ou de faire attention à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises parce que voilà, il fait énormément de bêtises ou à faire attention à ce qu'il aille bien. Quand je les laisse seuls, je rentre, si il s'est passé des choses, je vais voilà, ils me rendent des comptes en fait, ils me disent bah voilà, il s'est passé ça, j'ai pas su gérer. Et donc, cette maturité, pour eux, ce qui est difficile, c'est le décalage parfois avec ce qu'on leur propose comme responsabilité à l'école, ce qu'on leur propose comme responsabilité dans la société, où ils peuvent être un peu en colère contre... voilà, on les infantilise sur... parfois, ils ont l'impression qu'on les infantilise, alors qu'ils assument à la maison de grandes responsabilités. Je pense qu'il faut faire attention... enfin, il faut reconnaître, en tout cas, cette forme de responsabilité qu'ils ont auprès de leur frère handicapé.
Paul a 22 ans, enfin, oui. Vient de fêter ses 22 ans, c'est ça. Donc, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que, un peu comment vous voyez peut-être aussi les futurs mois, futures années, si ça s'envisage?
Oui, Paul, alors, effectivement, il vient d'avoir 22 ans, donc maintenant, il est un adulte. Aujourd'hui, alors, c'est voilà, son handicap est très, très fort, hein, il ne parle pas du tout, hein, il n'a aucun mot en fait dans l'expression. Il a toujours une autonomie qui est très 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 faible, enfin même pas du tout d'autonomie dans le quotidien. Mmh. Il fait encore, il a des centres d'intérêt très restreints, il fait beaucoup de bêtises, donc il demande une surveillance permanente.
Quand vous dites bêtises, c'est pas... Enfin,
oui, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément approprié. Comme il a des intérêts restreints, par exemple, Paul, il aime verser, il aime tout ce qui... Il aime transvaser, il aime verser, et donc il va systématiquement aller chercher tout ce qu'il peut verser. Donc la cuisine est une source inépuisable de choses que l'on peut verser. Mmh. Donc voilà, il va attraper le café, il va tout verser dans la cuisine, il va attraper les pâtes, il va tout verser. Voilà, il renverse des choses comme ça. Il va gratter des choses, il va arracher des choses. Il va aussi beaucoup circuler, donc il peut sortir d'une zone où on le surveille et partir. Hein, donc il se met en danger. Il voit pas forcément le danger. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui demandent en fait une surveillance. On peut pas le laisser circuler seul dans la rue. On peut pas le laisser seul en fait. Hein. Du coup, je sais plus ce qu'on disait.
Où il en est un peu aujourd'hui.
Ah oui, il en est. Alors aujourd'hui, effectivement, il est interne. Ouais. Il est interne dans un IME qui est censé s'arrêter à l'âge de 20 ans, puisque les personnes handicapées rentrent normalement en secteur adulte à l'âge de 20 ans. Seulement, il n'y a pas de place pour lui. En fait, il n'y a pas de place dans le Rhône. Il n'y a qu'un seul établissement qui pourrait l'accueillir et l'établissement est plein. Donc aujourd'hui, je ne peux même pas visiter cet établissement où ils n'ont rien à me proposer. Donc, on cherche, alors, soit il va dans un établissement qui n'est pas du tout spécialisé dans l'autisme, et c'est quand même compliqué parce que ça demande quand même d'être formé à ce type de handicap. On demande que les personnes qui s'occupent des adultes autistes soient formées, soit ça demande de partir très loin, de Lyon, en fait. Mmh. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de solution. Après, ce que je peux dire également, peut-être la crise du Covid ou depuis quelques années, le secteur adulte est quand même relativement sinistré. Il y a quand même beaucoup d'intérimaires, beaucoup de turnover dans ces structures et avec nos jeunes qui ont besoin, pour le coup, de stabilité. Donc, j'ai pas forcément hâte qu'il soit intégré dans le secteur adulte.
Et donc, pour l'instant, il peut rester en IME.
Ah oui, il peut rester. Il y a une possibilité. En tout cas, aujourd'hui, on ne met plus dehors les jeunes, même s'ils ont dépassé l'âge. Ça, c'est quand même une bonne chose.
On sait combien ce secteur est vraiment très fragilisé, en effet. Aussi, tout au long de votre livre témoignage, vous ne vous cachez pas sur votre foi, donc vous êtes catholique pratiquante. Est-ce que un peu la question qu'on a envie de se poser, mais est-ce que vous en avez voulu à Dieu de vivre toutes ces épreuves? Est-ce que je fais référence à un chapitre qui s'intitule « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Et en effet, j'imagine que c'est une question que vous avez dû vous poser. Est-ce que vous vous la posez encore aussi?
Alors, c'est vrai que la foi a une grande place pour moi et source de beaucoup de questionnements. Les épreuves de la vie et le handicap et le grand handicap de Paul, ça, le fait qu'il n'ait pas accès lui-même à la foi, qu'il n'ait pas accès à la prière, par exemple, il n'a pas accès au langage, donc c'est très compliqué. Tout cela me fait me poser beaucoup de questions. Est-ce que j'en ai voulu, est-ce que j'en veux au bon Dieu? Alors, c'est vrai que la colère est parfois présente hein, quand on traverse des épreuves. Moi, ça peut m'arriver d'être. En fait, la colère, elle vient avec l'injustice. Et c'est vrai que quand on cumule les épreuves, et c'est vrai que parfois, c'est tellement injuste. Moi, je repense par exemple à des moments où. J'ai organisé un week-end avec mes enfants, un week-end un peu de répit où on va pouvoir faire quelque chose et il était prévu que Paul soit pris en charge pendant ce week-end pour que nous puissions faire quelque chose ensemble. Et puis au dernier moment, c'est annulé pour X raisons. Ça peut me provoquer des grandes colères parce que c'est vraiment tellement pas juste. C'est tellement difficile pour nous de faire des activités, par exemple. On ne peut pas faire d'activités en famille avec Paul. Et puis faire garder Paul, avoir du répit, c'est tellement compliqué. Il manque tellement d'aide et de répit. Et quand on arrive à l'organiser, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, et quand c'est annulé au dernier moment, moi, ça peut me mettre dans des grandes colères. Cette injustice peut me mettre dans de grandes colères. Quand j'ai des journées qui se terminent à l'hôpital parce que Paul s'est blessé ou qu'il y a eu une crise d'épilepsie difficile, et que j'enchaîne sans pouvoir me reposer, je trouve ça tellement injuste. Alors, je peux être en colère. Mais cette colère, en fait, j'ai fini par comprendre que c'était pas, elle avait pas tellement de sens de crier contre Dieu. Mais pourquoi j'en suis là? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a encore tout ceci? Et finalement, j'ai fini par comprendre que Dieu n'était pas contre moi, que ça ne servait à rien de crier contre Dieu, il n'était pas contre ma situation, et que Dieu était plutôt à côté de moi, et qu'il était à côté de moi, et qu'il pleurait avec moi, et qu'il était là, en fait. Et donc ma prière de colère, souvent, se transforme une prière que j'aime beaucoup, où je dis « Seigneur, donne-moi un signe que tu es avec moi pour traverser cette épreuve. » Voilà, je ne demande pas que l'épreuve ou que la difficulté soit effacée. Je demande juste d'être certaine que je ne suis pas seule et que le Seigneur est avec moi sur ce chemin.
En effet, et j'ai envie de citer une de vos phrases qui témoigne de ça. Que vous écrivez dans votre livre. L'enthousiasme, c'est d'avoir Dieu à l'intérieur. C'est une énergie qui se nourrit d'une présence. C'est la certitude intime de n'être jamais seule. En effet, donc, quand vous dites, vous avez la certitude que Dieu est avec vous, même si l'épreuve est difficile à traverser.
En fait, il n'y a rien de pire quand on a la foi que d'avoir l'impression qu'on est abandonné par Dieu. Et il n'y a rien de pire que le silence de Dieu quand on a la foi. Parce que moi, je le vis comme une espèce de double peine. Non seulement je vis l'épreuve, je suis dans la nuit noire de l'épreuve, mais en plus, je suis toute seule et le bon Dieu ne répond pas à mes prières. Et donc, on finit par développer une forme de culpabilité. C'est parce que je prie pas bien, c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et c'est absurde, en fait. C'est une forme de perte de la foi, en fait. Parce que finalement, nous croyons dans un Dieu qui nous aime et qui, du coup, est à côté de nous, qui ne peut pas nous abandonner, c'est pas vrai.
J'avais envie de vous citer à nouveau, parce qu'il y a plein de belles phrases dans votre livre. Vous dites à un moment donné, à vivre sans contrainte, on fait toi sans saveur. Et en effet, je trouvais que à la lecture de votre livre et de vos différentes chroniques aussi, il y a toujours une part de lumière, de joie, malgré l'épreuve. Ça a l'air extrêmement sombre, escarpé parfois ce que vous vivez. Et vous dites bien que vous ne voulez pas effacer l'épreuve, hein, vous la vivez pleinement, vous la traversez, vous employez ce mot-là à l'instant. Peut-être comment vous faites un peu pour chercher cette joie un peu en toute chose, malgré tout.
Alors, la joie, c'est... La joie, pour moi, c'est une recherche, effectivement, c'est un chemin, et j'en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour moi. C'est-à-dire que je peux vite être happée par les difficultés, les obstacles du quotidien, les soucis du quotidien, et oublier le reste et la joie. Et donc, très vite, notamment quand je me suis retrouvée seule avec mes enfants, la question de réenchanter le quotidien est venue. Parce que je me suis dit, c'est pas possible de vivre avec trop de soucis. Enfin, de se laisser, en fait, de laisser son cœur se durcir parce que c'est trop difficile. Et c'est vrai, hein, c'est difficile, et c'est vrai qu'il y a des jours où... c'est difficile de voir une lumière, en fait. Mais du coup, je me pose toujours cette question de la joie, et je vais rechercher, en fait, une solution. Et c'est un peu, j'allais dire, le livre est là-dessus. C'est-à-dire que la difficulté, je la décris, et moi, je cherche là-dedans comment arriver à ne pas me laisser, laisser toute la noirceur, en fait, envahir ma vie. Donc c'est vrai que c'est un combat, et je développe effectivement plein de choses que j'expérimente pour essayer d'aller vers la joie.
Et justement, est-ce que peut-être un exercice, à donner, enfin un qui vous...
Mes trouvailles.
à partager.
Alors, une chose très puissante, par exemple, c'est de mettre sa joie dans la joie des autres. Quand on a un enfant handicapé, on est vite rattrapé par des choses qui sont terribles, comme la comparaison. La culpabilité, la comparaison, c'est très facile. La comparaison, on a tous autour de nous des familles qui vont très bien et des familles qui font plein de choses. Et nous, vite, on va vite voir tout ce qu'on ne peut pas faire et nos difficultés. Et mes enfants le voient très bien aussi, ça. Hein, donc, c'est difficile aussi pour eux de dire, mais pourquoi nous, on va pas, on fait pas ci, on fait pas ça, voilà. Et tout ça, c'est à cause de Paul. Mettre sa joie dans la joie des autres, c'est une joie qu'on ne peut pas, que rien ne peut nous enlever. Et donc j'essaie de dire ça à mes enfants, mais réjouis-toi pour ton ami qui a fait ce beau voyage. Réjouis-toi pour ta cousine qui a pu faire ça. Ça enlève pas la difficulté, mais ça met le cœur dans la joie, voilà, ça permet de mettre le cœur dans la joie sur de décentrer du problème. Ça, c'est une chose. Après, la joie, elle n'est pas toujours possible non plus, quand Paul souffre, par exemple, ou quand mes autres enfants souffrent. Avant-hier, j'ai retrouvé Paul par terre dans sa chambre parce qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Je me suis précipitée. Et c'est terrible, et c'est pour moi, de le voir souffrir, en fait, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas de joie possible quand on voit ceux qu'on aime souffrir, en fait. Donc c'est pas toujours possible, mais en tout cas c'est une recherche, c'est une recherche et c'est un questionnement.
Et qui passe aussi par l'humour, vous parlez aussi beaucoup de ça.
Alors oui, alors une autre chose pour la joie, c'est aussi d'avoir la possibilité de raconter ce que nous vivons au quotidien. Et ça, c'est possible parce que j'ai la chance d'être entourée aussi d'amis très chers qui comprennent en fait ce que je vis et qui m'écoutent. Donc ça, et c'est aussi pour ça peut-être que j'écris aussi. Mais quand on vit des situations compliquées avec Paul, qui sont souvent des situations humiliantes, quand Paul se déshabille en pleine rue, quand Paul n'a pas un comportement adapté, dans une salle d'attente, devant les autres, d'exposer Paul devant les autres, c'est souvent assez humiliant pour lui, pour nous, pour ses frères et sœurs. Et donc, ensuite, de relire ce qui s'est passé dans un deuxième temps et d'arriver à y mettre de l'humour, ça permet aussi de transformer en joie ce qui était difficile. Quand je vois, cet été, je racontais à mes neveux comment Paul avait mis sans dessus dessous une salle d'attente d'un médecin en déversant la caisse de Lego partout, en la renversant partout dans la salle d'attente. Il y en avait partout, tout le monde était à quatre pattes en train de chercher les Lego. Et de voir mes neveux de 7-8 ans plier de rire en imaginant la scène, c'est vrai que c'était réjouissant. On a pu tous en rire ensemble. Alors que sur le moment, j'étais pas.
Ça devait voilà. être loin d'être.
C'était très drôle.
Et peut-être un peu pour finir cette conversation, je trouve qu'à la lecture de votre livre aussi, c'est pleinement ancré dans votre quotidien, ce que vous vivez avec Paul et vos autres enfants, on peut aussi être rejoint, même si on traverse pas la même chose que vous. Que dire à quelqu'un qui traverse une épreuve pour se mettre justement sur ce chemin de chercher la joie, un peu essayer de chercher la joie en toute chose?
C'est une question difficile parce que les épreuves sont toutes très différentes et puis on les vit chacun avec le bagage qu'on a. Mais l'épreuve, c'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité. On ne peut pas... On ne peut pas être exempté d'épreuves dans la vie. Et alors, on a des épreuves plus ou moins difficiles, mais en tout cas, on traverse tous l'épreuve. Et puis, moi, j'en ai sans doute encore beaucoup d'autres à traverser. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voudrait éviter, mais qu'on ne peut pas éviter. Je ne peux pas donner de conseils, bien évidemment, sur comment traverser les épreuves. La seule chose que moi la chose qui m'a aidée moi qui m'aide en tout cas à traverser les épreuves, c'est de ne pas être seule. Il y a rien de pire que de se sentir seule quand on est dans la nuit noire de l'épreuve. Je pense que la foi aide aussi comme on disait tout à l'heure, à ne pas se sentir seule, mais je souhaite en tout cas à toute personne qui traverse une épreuve de trouver sur son chemin quelqu'un qui puisse l'accompagner.
D'oser demander de l'aide parfois aussi, ce n'est pas forcément évident.
Demander de l'aide, c'est encore autre chose, demander de l'aide dans l'épreuve, c'est quelque chose qui est très difficile parce que l'épreuve isole, mais c'est vrai que C'est vrai que peut-être que c'est une leçon pour... Enfin, pas une leçon, mais c'est peut-être un conseil pour ceux qui voient d'autres traverser l'épreuve, c'est d'oser s'approcher et d'oser accompagner, parce qu'on ne pourra pas soulager l'épreuve de l'autre, mais on peut être là.
Être présent.
Être présent.
J'avais aussi à nouveau envie de vous citer, mais voilà, quand vous dites dans votre livre, pour traverser l'épreuve, il faut une main ferme qui vous tienne, une voix douce qui vous rassure et un cœur pur qui vous écoute. Ça, on peut laisser chaque auditeur méditer cette belle phrase. Un grand merci, Marie-Amélie Saunier, pour ce témoignage que vous nous avez apporté. Merci pour votre parole de mère qui, j'espère, pourra rejoindre d'autres personnes traversant des épreuves dans la vie. Et j'invite évidemment nos auditeurs à acheter votre livre, mais aussi à continuer de vous lire en suivant vos chroniques sur ombreetlumieres.fr.
Merci Guillemette.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombres et Lumières et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez approfondir ce thème en vous procurant le numéro de la revue en allant sur ombreseslumieres.fr. À bientôt !